l'individu et la cuidité sont les deux premiers dans l'ordre de la détermination de l'être en tant qu'être. Ce sont les premiers prédicaments. L'individu, pourtant, se prend à partir de la matière. N'est-ce pas plutôt la personne concrète et singulière qui se premier ? Il est dit bien évident que la matière ne peut pas être première dans l'ordre de l'être. Et c'est très juste ce qui est souligné là. Elle est première coadnos par rapport à nous, pas par rapport à l'être en tant qu'être. Mais nous cherchons ce qui est premier par rapport aussi à notre expérience. La philosophie part de l'expérience. Et l'individu restera toujours ce qui est premier, quanos. Vous voyez ? Alors, le quanos, c'est-à-dire relativement à nous, traduisez relativement à nous. Relativement à nous, relativement à notre expérience, l'individu est toujours ce qui est premier. Et ce qui est dernier, quand on meurt, il reste l'individu, le cadavre. C'est impressionnant, du reste. Et c'est très utile pour ce que nous allons dire successivement. La mort est une expérience philosophique. C'était même la grande expérience pour quelqu'un comme tous les existentialistes. Et pour Sartre, c'était la grande expérience qui donnait une frousse intense. Parce que la mort ne répond pas. Il y a le silence. Et c'est terrible, hein, quand on interroge qu'il y a le silence. Vous savez bien, la chose suprême quand on fait passer un examen, c'est d'interroger et ne jamais répondre. Il reste glacial. Alors vous ne savez pas si c'est vrai ou faux. Il n'y a rien de tel pour désarçonner. J'ai fait passer beaucoup d'examens dans ma vie et j'ai beaucoup réfléchi sur l'examen. Et c'est pour ça que je n'aime pas te faire passer d'examen, mes frères. Il en faut, puisqu'on demande ça. Ça fait partie de la scolarité. Mais c'est faux de faire passer des examens, ces frères. Oui, toujours la même chose. L'enseignement est-il monastique ou simplement universitaire? C'est très curieux, hein. Tout tourne à tous ces choses-là. Et il faut essayer de les comprendre dans leurs racines. Alors, c'est évident que l'individu est premier et dernier, c'est ce qui reste quand la substance fiche le camp. Il reste l'individu. Alors on comprend très bien que si on a une perspective de ce qui demeure, alors l'individu. Alors on ne dit pas l'individu, on dit le sujet. Mais c'est l'individu, c'est le sujet. C'est fait mieux parce que le sujet, on ne l'analyse pas, le sujet. Et d'une certaine manière, l'individu échappe à l'analyse. Pour nous, quand l'âme disparaît et laisse l'individu mort, l'âme ne répond plus. c'est le silence. L'individu est une réserve de silence mortel. Très curieux, ça. Mais c'est ça, l'individu. C'est évident, il ne peut pas être premier du côté de l'être. Mais il reste au premier, quoi de nos, par rapport à nous. Ce que vous saisissez en premier quand vous connaissez, quand vous découvrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous aurez demain la visite de quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vous parlera. Et vous cherchez à connaître la personne, pas l'individu. Mais la première chose qu'on connaît, c'est l'individu. On dit bonjour à l'individu. Vous ne dites pas bonjour à la personne. Puisque la personne vous échappe. C'est très curieux, ça. Mais c'est très simple, du reste. Mais le philosophe se trouve en face de l'individu, le sujet. Et on dit le sujet exprès, le sujet existant, celui dans lequel tout, même la mort, l'individu peut être sujet de la mort. Et la mort, c'est ce qui me reste de la substance, hein. C'est le reste de la substance. C'est curieux. Alors, on parle du sujet. Mais non. Si on va jusqu'au bout, le sujet, il est avant tout individu. Avant tout individu. Et l'individu, il résiste à l'analyse. Il y a quelque chose de premier dans l'individu. Il résiste à l'analyse. Vous n'arriverez jamais. Alors vous en faites la photographie. Mais vous n'arriverez jamais à pouvoir caractériser l'individu. Il échappe. Et il est pleinement lui-même à la mort. Ah, il n'est plus que l'individu. Mais alors, c'est le cadavre. Donc il n'est pas premier dans l'ordre de l'être. Parce que il échappe à la vie. Il n'est plus vivant. Et quand même, la modalité d'être vivant, c'est une qualité pour l'être. Le vivant est plus être que le non-vivant. Et c'est vrai, le vivant est plus être que le non-vivant. La modalité du vivant est une modalité d'être qui est très particulière, puisque c'est un être immanent. Le vivant, c'est celui qui se meut. Quand vous dites c'est celui qui se meut, vous affirmez l'immanence du vivant. Et alors, l'individu, il n'est plus vivant dans le cadavre. Il reste individu un certain temps. Et il se décompose. Il n'y a plus le principe d'unité qui se maintenait grâce à quelque chose d'autre. Vous voyez, on passe par l'âme, c'est très curieux, pour saisir parfaitement ce que c'est que la substance. on passe par l'âme. L'individu, il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus de principe d'unité. Il se décompose. Il va dans tous les sens. Alors, ça, c'est encore une expérience. Hein. C'est une expérience désagréable, qui n'est pas agréable du tout. Mais ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de la connaissance du corps, hein. Le cadavre. C'est mon corps qui sera cadavre, c'est pas mon âme. Et mon corps sera cadavre dans la mesure où l'âme se sépare. Vous voyez ? Donc quand j'arrive à cette dualité sujet-quidité, c'est très intéressant parce que je vois que le sujet, il est capable de mourir. Et c'est même ce qui, dans l'homme, lui donne la capacité de mourir. C'est son corps, c'est son individu qui le rend capable de mourir. Donc, c'est son corps qui est source de toutes les angoisses. Toutes les angoisses ont comme source la mort. Et c'est vrai, c'est pour ça que la seule manière d'éviter toutes les angoisses, c'est le mystère de la résurrection. Ma mort, elle est passagère. Alors là, évidemment, c'est la foi, puisque le philosophe ne peut pas dire ça. Et ça montre que la philosophie, au fond, n'explique pas tout. Puisque la mort, je suis devant un grand point d'interrogation. Un grand point d'interrogation. Que deviendra mon corps ? Et toutes les angoisses qu'on peut avoir proviennent de ça. La foi me permet de voir que la mort est passagère. Jésus a été victorieux de la mort par la résurrection. La résurrection, c'est la grande victoire sur la mort. La résurrection du corps. Et parce qu'il y a la résurrection, il n'y a plus d'angoisse. La mort est relativisée. Alors que la mort, philosophiquement, au point de vue de l'expérience, est un absolu. Vous interrogez le mort, il se tait. Ça vous effrayerait encore plus s'il se mettait à parler. Hein. Il se tait. Et vous restez devant la mort. Pourquoi la mort ? Cette personne était si admirable pour moi. C'était mon ami. Pourquoi la mort ? Il n'y a pas de réponse, hein, du philosophique. C'est un fait. Pourquoi la mort ? Et c'est très intéressant de toucher les limites de la philosophie. Et là, vous touchez une limite de la philosophie. Et nous cherchons le premier dans l'être. Et nous voyons que l'individu, le sujet, ne peut pas être le premier dans l'être. Il est le premier du devenir. Il est le premier du devenir. Il est le premier dans l'ordre du devenir, dans l'ordre de la vie. Et c'est vrai, tout part du sujet. mais il n'est pas premier dans l'ordre de l'être. Donc il ne peut pas être substance. Et l'individu est capable de mourir. Il est dans le temps. Il est capable de mourir, de disparaître. Et ce n'est pas en disparaissant qu'il est le premier dans l'ordre de l'être. En disparaissant, il est le premier dans l'ordre du devenir. Et c'est vrai, il y a une certaine priorité du sujet par rapport à l'âme. Oui, c'est très intéressant ça. Parce que beaucoup aujourd'hui voudraient que l'âme soit tout de suite donnée. Parce qu'au fond, ils ne souffrent pas, ils n'acceptent pas que le sujet est premier dans l'ordre du devenir. Et donc, il est premier dans l'ordre de l'expérience. Vous avez l'expérience de l'individu, premièrement. C'est d'abord cette expérience que vous avez. Vous n'avez pas premièrement l'expérience de la personne. Vous avez vraiment l'expérience du devenir. C'est pour ça que dans l'ordre de la nature, le point de vue du sujet, le point de vue de l'individu reste toujours premier. Premier dans l'ordre du devenir. Mais pas dans l'ordre de l'être, puisque à un moment donné, l'individu peut mourir. Et il meurt comme individu. Donc, il n'est pas premier dans l'ordre de l'être. Il est susceptible d'être non, pas non-être, puisque c'est pas le néant, c'est un cadavre. Le cadavre n'est pas néant. Mais il se décompose. Il n'y a plus d'unité. Et donc, s'il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'être. L'unité étant la propriété de l'être. C'est donc très important pour nous l'expérience de la mort. Parce que l'expérience de la mort va tout de suite, à l'égard de ces deux premiers, l'individu et la quidité, faire que je ne peux pas regarder l'individu comme premier. L'individu, grâce à l'âme, il est vivant. Mais l'individu n'est pas vivant par lui-même. Ex parte materiae, il se prend du côté de la matière, du côté de la quantité. L'expérience de la mort est donc, au point de vue philosophique, une expérience extrêmement importante, parce qu'elle nous oblige, de dépasser le sujet et de regarder la quiétité, la nature. Mais la nature ne peut pas être première dans l'ordre de l'être. Vous voyez, on est coincé. Je vois que le sujet ne peut pas être premier dans l'ordre de l'être. La nature peut-elle être première dans l'ordre de l'être? Non. Pourquoi? Si je mettais la nature première dans l'ordre de l'être, la quidité première dans l'ordre de l'être, je n'échappe pas au platonisme. Ce serait l'être en soi, la forme en soi. La quidité est abstraite. elle est un principe. Ce par quoi je vis. Ce par quoi je suis. Ce par quoi j'existe. L'acuité. L'homme. Ça ne peut pas être premier dans l'ordre de l'être. C'est premier dans l'ordre de la connaissance. Dans l'ordre de la connaissance, d'une certaine connaissance, d'une connaissance générique. Elle est première dans l'ordre de la connaissance générique. Mon âme, ce par quoi je suis un vivant, ce par quoi je suis un sujet, ce par quoi je suis. C'est un principe. Or, l'être, est-ce qu'il est en premier lieu principe ? C'est-à-dire quelque chose d'abstrait. Ce par quoi ? Ce par quoi ne peut exister que grâce à la matière. Il ne peut pas exister en lui-même. Alors, il ne peut pas être que premier dans l'ordre de l'être. Comment voulez-vous que le premier dans l'ordre de l'être, il existe par lui-même ? Il n'existe pas à cause d'un autre ou grâce à un autre. Or, de fait, mon âme n'a jamais existé seule. Alors, mon âme, elle est en elle-même une substance imparfaite qui n'existe pas par elle-même, qui ne peut exister que dans le corps. Elle n'existe que dans le corps, donc elle est un principe, ce par quoi, c'est très juste. Mais le principe, c'est pas l'être. Elle est le principe de vie. Or, la substance, c'est pas au niveau de l'être, c'est pas au niveau de la vie. L'âme est au niveau de la vie. Et la substance est au niveau de l'être. Elle est première dans l'ordre de l'être. Et le premier dans l'ordre de l'être, par soi-même, est. Autrement, il n'est pas premier dans l'ordre de l'être. Il reste dépendant. On est donc coincé. C'est ni la substance, ni l'acuité. C'est ça qui est intéressant, à bien voir que je ne peux pas m'arrêter quand je considère l'homme et donc la plus grande expérience que j'ai de ce qui existe. Je n'ai pas d'expérience d'êtres qui sont sans la matière, sans l'individu. J'ai l'expérience de l'individu, j'ai l'expérience de l'âme. J'ai l'expérience de ce que c'est qu'un principe de vie. Une certaine expérience, pas directe si vous voulez, j'ai toujours pas l'individu, mais c'est quand même ce par quoi l'individu vit. Ce par quoi. Elle est principe du vivant. Donc, je m'aperçois que ces deux premiers, le sujet et l'âme, ne peuvent pas être le premier dans l'ordre de l'être. Cet aspect négatif est très très important. Parce que, au fond, c'est même très curieux dans Saint Thomas. Saint Thomas, c'est normal. Saint-Thomas est un théologien. Saint-Thomas n'a pas fait de philosophie. Il a fait de la philosophie, mais il n'a pas fait de livre sur la philosophie. C'est très dommage. On aurait beaucoup aimé ça. Il avait la métaphysique d'Aristote. Et quand vous étudiez la métaphysique d'Aristote selon saint Thomas, saint Thomas aboutit au sujet et à l'acuité, substance première, substance seconde. Et vous restez devant ça. Parce qu'il n'a pas fait de philosophie pour elle-même. Il a étudié admirablement le livre d'Aristote sur la substance, mais on reste sur sa fin. Et c'est normal, il est commentateur. Or, la solution d'Aristote sur la substance, c'est dans le dernier chapitre du livre sur la substance. Avant, il écarte toujours, toujours, toujours. Tellement, il comprend que c'est difficile. Dépasser le sujet et l'acuité ne peut se faire qu'au niveau de l'être. L'individu, c'est une manière d'être. L'acuité, c'est une autre manière d'être. Les deux manières d'être. Vous existez. Indépendamment de tous les autres, vous êtes premier dans l'ordre de l'être. Vous existez d'une manière individuelle par la quantité et la matière. Vous n'êtes pas premier dans l'ordre de l'être. Il faut d'abord, en premier lieu, voir que le point de vue du sujet, comme le point de vue de l'acuité, ce n'est pas être premier dans l'ordre de l'être. C'est une modalité. L'individu est une manière d'être. Je suis individuel. Et ça, on en a l'expérience constamment. Vous n'êtes pas votre voisin. Vous êtes un individu. Et vous comprenez ça très bien quand vous êtes en retard et qu'un autre a pris votre place. Vous dites, mais non, c'est la mienne, c'est ma place. C'est pas la place de votre âme, c'est la place de votre individu. Vous savez, faites cette petite expérience constamment, en avion ou dans le train, quand vous arrivez un peu en retard, votre place est prise. Et vous êtes obligé de dire, c'est ma place, comme individu. Et on vous répond, bah donc, espèce d'individu, je suis bien avec toi. Non, ah, j'ai mon billet. Et vous montrez votre billet. Et votre billet vous donne un droit. C'est pas vous, c'est le billet. Vous voyez comment on vit un monde factice. Exactement comme la carte d'identité. Vous n'êtes pas suffisant d'exister. Moi, j'existe. Non, il faut montrer votre carte d'identité. Votre carte d'identité porte plus d'autorité que l'individu. C'est curieux. Ça m'a toujours renversé, ça. Ce petit bout de papier, parce qu'il est signé, il y a un tampon, ce petit bout de papier montre que vous existez. Et pourtant, quand vous êtes là, vous montrez bien que vous existez. Non, non. On ne vous regarde pas. On regarde le petit bout de papier. Vous voyez, comme on vit un monde artificiel, le point de vue, le document passe avant la réalité. Le document passe avant la réalité. Et l'historien étudie les documents. Il n'atteint pas la réalité, puisque l'individu est mort. C'est curieux. Et on s'habitue à ça, et on vit ça normalement. Il faut avoir la conscience de ça, que nous vivons un monde terriblement artificiel. Peut-être que ça ne peut pas être autrement. Dès qu'on est un groupe, et dès qu'on vit dans un groupe, l'autorité du groupe est supérieure à l'autorité de l'individu. Et l'autorité du groupe fait autorité. Alors, c'est difficile de découvrir la substance dans un monde comme ça. Parce qu'on est habitué de considérer que le point de vue artificiel, c'est quand même artificiel la carte de vision, votre identité dans cette carte de votre individu, de votre personne. Alors, c'est à cause de ça que c'est très difficile de dépasser ces deux substances. Et je vois certains qui sont habitués à lire saint Thomas un peu matériellement, disent « saint Thomas n'a jamais dépassé, ça m'a été dit plus d'une fois, n'a jamais dépassé l'individu, les substances premières, substances secondes. Il maintient toujours substances premières, substances secondes. Substances premières, l'individu, substances secondes, l'acuité. Et selon l'ordre génétique, c'est juste. Je ne peux pas dépasser ça. Selon l'ordre génétique. Selon l'ordre de mon expérience, je ne peux pas dépasser ça. Et pourtant, ni l'individu, ni l'acuité ne sont premières dans l'être. Si je mets l'individu première dans l'être, j'ai le positivisme. Si je mets l'individu, si je mets l'acuité première dans l'être, j'ai l'idéalisme. Ah. Je veux dépasser le positivisme et l'individu et le point de vue de l'idéalisme. Parce que mon intelligence est faite pour l'être. Mon intelligence n'est pas faite pour l'individu. Mon intelligence n'est pas faite pour l'acuité. Elle est faite pour l'être. Je suis. Ceci est. Ça, c'est capital. Si vous n'avez pas cette évidence, vous resterez substance première, substance seconde. Réponse à la première question. Et si tu restes directement dans ce que nous cherchons, hein. Nous cherchons la saisie du principe selon la forme dans l'ordre de l'être. Et l'âme me sert d'expérience, puisque la réalité la plus parfaite que j'expérimente, c'est l'homme. C'est la réalité la plus parfaite que j'expérimente. Et dans l'homme que je connais, il y a la naissance et la mort, qui sont quand même très importantes. La mort m'enseigne, la naissance m'enseigne. La naissance est joyeuse, la mort est douloureuse. Et c'est pas commode de dépasser la douleur. La joie bas se dépasse plus facilement. Mais le problème du premier dans l'autre lettre, ça m'intéresse, regardez le point de départ, la naissance, et le terme, la mort. Seconde question. Donc, je reste en suspens. Hein, mais je crois que c'est très bon de rester en suspens, de montrer que ni le sujet, ni l'acuité ne sont premières dans leur au dernier cours, vous avez appelé notre attention à la distinction entre individu et personne. Pouvez-vous y revenir ? Voilà. Qu'est-ce qui me donne ces deux regards différents sur la même réalité, le même homme ? Deux regards différents, c'est l'expérience. Le même homme, je le vois vivant et je le vois mort. Deux expériences. On a tous eu ce passage d'un être vivant et d'un être mort. Et c'est capital pour le philosophe d'avoir cette expérience, parce que c'est l'expérience... C'est l'expérience la plus tragique de notre vie. Et c'est l'expérience la plus réaliste. Celui qui dit, je ne veux pas regarder la mort. Mais si vous ne voulez pas regarder la mort, il y a une expérience humaine que vous ne voulez pas regarder. Et donc il y a des quantités de choses que vous ne comprendrez jamais. Celui qui ne veut pas regarder la mort. Qu'il l'écarte. Ah, je ne veux pas y penser. Mais, et parce que il dit ça parce qu'il s'abrite. Il y a un mur qu'il ne veut pas regarder. Mais si on ne veut pas le regarder, la mort existe quand même. C'est pas parce qu'on ne veut pas la regarder qu'elle n'existera pas. Elle existe quand même. Et parce qu'elle existe, je dois la regarder. Et comme je suis devant un problème extrêmement important, parce que s'il n'y a pas de principe selon la forme dans mon étude sur l'être, ma métaphysique n'existe pas comme science. Ma métaphysique n'existe pas comme une réalité, je resterai tout simplement devant le vivant. Et des quantités de philosophes ne dépassent pas le vivant. Des quantités, parce qu'ils ne veulent pas regarder la mort. Parce que la mort, c'est la fin de la vie, quoi. C'est pas la fin de l'être, c'est la fin de la vie. Donc il y a quelque chose qui est au-dessus du vivant. Et quelque chose qui m'appartient. La mort, ça m'appartient. C'est ma mort. La mort de tous les hommes, très bien, je n'aime pas trop les regarder. C'est un genre de deuil, non. Mais votre mort, elle existe. Elle existe à l'état virtuel pour le moment. Elle existera à un moment à l'état actuel. Et ça fait partie de notre réflexion philosophique. La mort n'est pas seulement un phénomène du vivant. C'est quelque chose qui ébranle notre vie. Ça ébranle notre vie. Et c'est pour ça que que nous n'aimons pas beaucoup la regarder. Parce que ça, bon, ça fait une angoisse. Je dois bien dire, la mort, c'est pour moi. C'est pour chacun d'entre nous. C'est un phénomène qui est nôtre. Et je la vois, parce que la mienne, je ne la vois pas, pas encore. Mais je la vois chez ceux qui meurent, à côté de moi. Et quand je la vois chez les autres, je dis, elle est aussi pour moi. Alors, qu'est-ce que je suis devant la mort ? Brûlantes, mais il y a certaines questions brûlantes comme ça qui justement sont capitales parce que ça me permet le dépassement de ce regard au point de vue de la recherche de la substance où je m'arrête à ces deux priorités. Vous voyez, je me sers d'une expérience douloureuse. Je ne peux pas regarder la mort avec un regard complètement indifférent, purement objectif, comme on dit. Je ne peux pas. La mort, je ne la connais qu'en comprenant que c'est ma mort. La mort de mon père, la mort de ma mère, c'est ma mort. Ça m'ébranle dans mon être même, forcément. C'est ma mort. La mort de mon frère, c'est ma mort. Mais c'est intéressant parce que ça montre que la connaissance purement affective est limitée. Ça montre que la connaissance purement objective est limitée et que c'est la connaissance affective qui enveloppe l'objectivité dernière. Et ceci est vrai pour le point de départ et pour le terme. Il y a quelque chose qui dépasse la pure objectivité. En pure objectivité, devant la mort, je me tais. Silence, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais ça, c'est une abdication. C'est une abdication de votre intelligence. Parce qu'elle a peur de la mort. Alors votre intelligence ne veut pas regarder ce phénomène qui est capital pour chacun d'entre nous. Je veux bien regarder ma naissance, j'en ai pas souvenir, mais peut-être que mon corps en a un souvenir, c'est possible, et que en faisant bien attention, j'arriverai à dire oui, c'est ce qu'on a dit. Ma naissance s'est passée comme ça, c'était à la fois une grande joie et puis une très grande tragédie. Et l'astronome regarde les étoiles, oui, les étoiles, on vient de naître, c'est grave. Et là, on ne regarde pas trop, parce que c'est grave. Et c'est vrai, c'est grave. C'est un des moments les plus graves de notre vie. Et donc, on doit avoir le regard suffisamment net pour regarder sa mort. Je reviens donc maintenant à ce fait que ni l'individu, la substance, le sujet, ni l'acuité ne peuvent être premières dans l'être. Ça, je crois que chacun d'entre vous, vous pouvez le saisir. C'est une modalité de l'être. Mais ce n'est pas premier. Premier, c'est-à-dire la chose à laquelle nécessairement on s'arrête. Il y a quelque chose qui échappe à l'expérience. Mon expérience se termine à l'individu. Mon expérience se termine à l'individu. Mon expérience se termine à l'acuité. Et j'ai parfaitement le droit de regarder cette expérience comme n'atteignant pas un principe dans l'ordre de l'être. Je ne peux pas avoir l'expérience, ça je peux le dire, je ne peux pas avoir l'expérience d'un principe. Je serais foudroyé intellectuellement. Je ne peux pas avoir l'expérience d'un principe dans l'ordre de l'être. Mais je saisis et je peux saisir le moment ultime où je ne peux pas aller plus loin. L'individu meurt. Je ne peux pas aller plus loin. Le sujet meurt. L'acuité, elle est le fruit d'une connaissance. L'acuité existe véritablement dans la réalité, mais elle est le fruit d'une connaissance. Elle n'est donc pas première dans l'être. Elle est première dans le vécu de l'intelligence. Donc elle est première pour tous les philosophes qui parlent du vécu de l'intelligence. Platon en premier lieu, l'être en soi. L'intelligence donc, qui se pose la question quelle est la première dans l'être, doit dire que c'est un au-delà du sujet, c'est un au-delà de l'acuité. Et cet au-delà du sujet et de l'acuité, c'est l'être, comme être. Et donc, la substance, c'est ce par quoi le sujet est sujet, et la substance est ce par quoi l'acuité est acuité. Et donc, elle est à la racine du sujet et de l'acuité. Je ne peux pas en dire plus. Je la saisis comme ce qui est à la racine, qui est source de l'acuité et source du sujet. Et elle est une, forcément, le principe est un, une dans l'ordre de l'être. Alors vous pouvez dire que c'est un la substance, c'est l'au-delà du sujet, c'est l'au-delà de l'acuité. Elle est acuité dans le principe, elle est sujet dans le principe. Elle est ce qui est premier, ce par quoi l'être en tant qu'être est déterminé. Ce par quoi l'être en tant qu'être peut être sujet, donc subsister.